Un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto.
Zoulou, peut-être.
Je vais attendre. Je regarde bien avec ce Zoulou.
Avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché.
Bonsoir tout le monde, lundi 15 juillet, les commissaires de course pour parler de l'étape 10 du Tour de France, Saint-Flour, et l'arrivée était à Albi dans ce si beau Tarn. Avec moi ce soir pour débriefer cette étape, et je peux vous dire que c'est pas facile à débriefer celle-là, Théo, bonsoir Théo.
Bonsoir tout le monde.
Également Charles, bonsoir Charles.
Salut Ben et bonsoir à tous.
Et enfin, celui qui a le moins de mal pour faire cette émission parce que Brenton Jones a gagné ce matin, Greg, bonsoir Greg.
Bonsoir à tout le monde.
Alors, on va parler de cette étape et on va commencer par le sprint avant de venir bien sûr sur les favoris. On va commencer par ce sprint et qui dit sprint, je vais vous annoncer le classement de l'étape, les 5 premiers, donc Van Aert qui l'emporte devant Viviani, Caleb Ewan, Matthews et Peter Sagan, vainqueur d'un groupe de 28 coureurs. Alors Charles, c'est le troisième Jumbo-Visma qui l'emporte au sprint après Tennyson, après Groenewegen, voici le tour de Van Aert.
Ouais, l'auto-jumbo. Jumbo-Visma fait vraiment un très très bon Tour de France et moi je suis content que Van Aert s'impose. C'est vraiment un coureur qui a une classe absolue. Il l'a encore montré. Là, il s'impose pas seulement face à des sprinteurs de seconde zone. On voit qu'il arrive à taper des mecs comme Viviani, etc. Donc ça fait vraiment plaisir, même si tu l'as très bien dit, Benjamin, tout le monde est un peu morose ce soir, et on y reviendra tout à l'heure, mais disons que c'est le petit rayon de soleil, on va dire, la victoire de Wout Van Aert qui fait du bien.
D'ailleurs, on ne pourrait pas se regretter, Théo, que les trois coureurs que j'ai cités de la Jumbo-Visma soient dans la même équipe, parce que quand on réfléchit à Tennyson ou à Van Aert, on se dit que s'ils avaient joué le maillot vert, peut-être que Sagan aurait un peu plus de difficultés que ce qu'il a en ce moment au classement.
Bah, surtout Van Aert, hein, parce que c'est vraiment un coureur qui est polyvalent. Il a fait deux d'une étape, si je ne dis pas de bêtises. Auparavant. Oui, après, je pense que dès l'an prochain, on risque de ne pas retomber dans cette situation. Si Van Aert, quand Van Aert reviendra sur le tour, je pense que cette victoire lui permettra de bénéficier d'un peu plus de liberté. Après, c'est sûr que dans cette équipe Jumbo, il faut vraiment se faire une place, surtout qu'on annonce qu'ils essayent de recruter Tom Dumoulin. Donc, il y a trop de coureurs de bon niveau dans cette équipe. Je pense qu'il y en a qui risquent de partir dans les années qui viennent, ou alors il faudrait vraiment être des as du management du côté des managers de la Jumbo.
Greg, c'est également un sprint qui a été un peu houleux, notamment avec Richese qui fait droite-gauche sur Sagan et j'ai paumé l'autre coureur, sur Philipsen.
Ben comme souvent, quand dans les derniers mètres du sprint, comme c'est le poisson pilote d'Elia Viviani, eh bien, il frotte un petit peu avec les autres, il les gêne. On avait déjà remarqué sur un sprint la semaine dernière. Là, encore une fois, alors c'est pas bien méchant, mais c'est quand même régulier de voir Riquezé toujours frotter. Comme par hasard, on a l'impression qu'il fait celui qui est gêné par les autres, mais c'est bien lui qui gêne à chaque fois ceux qui jouent la victoire alors que lui ne la joue plus.
Alors, c'est pas tout à fait la même situation, mais pour ma part, je suis vraiment contre ces coureurs qui, une fois qu'ils ont lancé le sprint ou qu'ils ont fait leur boulot dans les derniers kilomètres, se relèvent complètement et deviennent des plots ambulants. C'est super dangereux. Ça a déjà provoqué des chutes et je ne comprends pas comment on ne peut pas sanctionner et le coureur et le leader, celui qui fait les sprints en termes de points, par exemple. Parce que ça devient n'importe quoi.
Là, Richese, il fait même pas le plou, il fait la boule de bowling. C'est surtout incompréhensible que déjà il se soit pas fait un peu légèrement sanctionner lors de la victoire de Viviani, c'était à Nancy, je crois. Parce que ça a même presque coûté la victoire à Christophe. Et là encore, c'est sur Philipsen. c'est pas compréhensible de faire ça, quoi. Enfin...
Alors, avant ce sprint, il y avait une échappée de 5 coureurs, le fameux Club des 5, si cher à Thierry Adam, avec, alors j'ai pas noté les noms, donc de tête, Turgis, Galopin, Wurtz, aidez-moi,
il y avait Béran aussi.
Béran qui fait le plein de points, et le dernier, qui était ce dernier coureur? Char, merci Antoine. Donc ils ont vraiment résisté au peloton avec un vent favorable, trois quarts favorable ou totalement favorable. Et puis ce qui leur a coûté, ce qui a fait qu'ils se sont fait vite rattraper dans le final, c'est qu'il y a eu des bordures. Alors on a vu Astana rouler, mettre un homme à rouler toute la journée. Oui. On a vu les Education First déclencher cette bordure. Finalement, ils font partie des piégés. Alors Théo, il y a eu Bennett qui finit très très loin. Mais également Uran, Landa, on va y revenir sur Landa parce que c'est pas pareil que les autres. Pinot, Porte, Fuglsang, c'est coup de massue.
C'est un coup de massue, ça balaye un peu le classement général. Alors ma première réaction, c'est que si au départ du tour on me dit que des favoris vont se retrouver piégés dans une bordure. Je pense pas forcément à Uran, je pense pas forcément à Fuglsang, mais par contre, je me dis, c'est pour Pinot et c'est pour Porte. Et c'est vraiment frustrant. On sait que même en étant concentré, ça peut se jouer à quelques secondes, mais c'est vraiment frustrant de se dire que c'est sur le point. Enfin, Pinot, il y avait plusieurs choses. Il y avait son placement et les descentes. On sait qu'il a travaillé les descentes. Et on pensait que c'était bon pour le placement. On sait que son équipe était respectée. La veille, on parlait justement du fait que. Enfin, je sais pas si c'était la veille ou.
C'était hier,
un peu plus tôt, on parlait du fait que. Ben voilà, maintenant la Groupama était autorisée à rouler à l'avant. Qu'ils avaient versé au pot commun du peloton. Et tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour. Perdre une 40, alors je sais qu'on va pas forcément en parler tout de suite, mais s'il y avait un tour sur lequel il fallait pas que ça se passe, c'était celui-là, quoi.
Alors Charles, Marc Madiot s'est confié aux Parisiens. Thibaut Pinot lui aurait dit que sur un rond-point, donc ils étaient plutôt bien placés, ils ont pris à gauche alors qu'ils sont il fallait passer à droite, ils ont perdu énormément de place. Toi, tout comme moi, on se rappelle de ce rond-point, alors c'est peut-être un peu avant la bordure, où en effet, tous ceux qui sont passés à gauche ont perdu facilement 40 places dans le peloton.
Ouais, pour ceux qui ont l'occasion d'aller sur le site de France Télévisions, essayez de vous mettre le replay, vous verrez, c'est vraiment impressionnant. Il y a facilement une quarantaine de places de perdu, et je pense qu'effectivement, c'est là-dessus que ça se joue. Après, je vais mettre un petit peu de côté le cas Thibaut Pinot, on y reviendra plus tard, vous l'avez dit. Mais j'aimerais quand même souligner que on s'est fait chier pendant 2 jours, plus ou moins, et là, on a quand même assisté, si on essaye d'être un petit peu objectif et de mettre de côté la déception qui est légitime, hein. On était très nombreux à croire dans les chances de Thibaut Pinot, et on a l'impression que tout le monde a pris un gros coup sur la tête ce soir. Mais je trouve qu'on a eu quand même une très belle partie de manivelle avec les Sky, on peut ne pas les aimer, être frustré par cette équipe, mais il faut admettre qu'ils courent admirablement bien. Ils étaient, je ne sais même plus combien, peut-être 7 devant dans le groupe à rouler, alors que tout le monde est piégé derrière. Enfin, il y a quand même sportivement quelque chose qui s'est passé d'intéressant. 25 secondes, on revient à 12 secondes, on pense que ça va rentrer. En finale, on repère du temps, enfin, en termes d'intensité.
Moi, je trouve les échappés également qui résistent pas mal pendant l'étape.
Ouais, je trouve que ce mouvement-là était sportivement, en tout cas, super intéressant à vivre. Après, ça s'est pas fini dans le sens qu'on aurait espéré, mais faut quand même souligner qu'il y a eu un beau mouvement de course sur une étape qui était censée être une purge. Après, on en parlait en off entre nous, on aurait peut-être préféré une purge cette fois-ci, mais je tiens quand même à souligner que il s'est passé quelque chose sportivement de très intéressant.
Avec des routes qui montent et qui descendent, c'est les routes du sud-ouest, de l'Occitanie, on va dire. C'était sympa d'ailleurs, même le début d'étape avec Sagan et Matthews qui se glissent vite fait dans un contre avant que ça fasse barrage. Théo, tu voulais intervenir?
Oui, non, c'était pour. Finalement, Charles a plus ou moins dit ce que je voulais dire. Même au niveau des bordures, des fois il y a des bordures, par exemple sur Paris-Nice où ça bataille au début et au moment où il y a le live TV, bon, même si on a les étapes en intégrité, mais il se passe plus grand chose parce que la bordure est faite et on sait que les autres ne proviendront pas. Et là, c'était sympa parce qu'il y avait une dramaturgie, il y a eu un choix tactique, je pense, des équipes derrière de faire le maximum pour rentrer dès le début. Et enfin, c'était quand même intense à vivre. Et même si on était tous stressés, Je pense qu'on n'a pas vu les kilomètres défiler. Enfin, sur les étapes de plat, il reste 30 km. Limite, on peut encore faire une petite sieste. Et là, c'est passé en 30 secondes, quoi.
Greg, les Ineos, c'est ça le souci pour les battre. Il faut faire aucune erreur puisqu'ils n'en font aucune. Et c'est ça le problème pour la suite du tour parce qu'ils n'y seraient pas. Ça serait Kreuzweig, ça serait Quintana qui aurait repris du temps. On dirait, ah ben ça va faire une belle course, mais malheureusement.
Ah ben, ça, c'est terrible. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de déceptions chez tous les suiveurs du vélo. Car au-delà de Thibaut Pinot, il y a d'autres leaders qu'on attendait, comme Fuglsang ou Landa, pour animer un peu les étapes et pour aller un peu chatouiller les Ineos. Et là, patatras, là, ils se prennent une 40 et ça fout un sacré coup au moral. Parce que quand on regarde le général, on se voit, bon, Alaphilippe est toujours en jaune, mais derrière, et de suite, Geraint Thomas et Egan Bernal. Et ça, s'ils ont déjà de l'avance avant le contre-la-montre de cette semaine à la 13e étape, évidemment, ils sont en position de force plus que jamais. Hein, et on voit, c'est assez terrible ce changement entre ce week-end où on avait l'espoir hein, que ça tourne un petit peu, hein, que c'était possible de les bousculer. Et là, patatras sur cette étape avec un coup de bordure, ça roule fort. Et même les équipes très fortes hein, eh bien, sont retrouvées dedans. Les Astana qui ont roulé un moment, peut-être qu'on y reviendra, on savait pas trop pourquoi, qui sont retrouvés dans la bordure. Pareil pour les Education First qui ont même tenté juste avant que ça pète dans la bordure. Donc ça va être très très mal pour, peut-être pour le suspense aussi, parce que là, beaucoup commence à se poser la question, est-ce que le tour est plié là sur le coup de la déception?
Charles, tu voulais
après, ouais, je vois beaucoup de commentaires, pas négatifs parce que c'est pas le mot, mais pessimistes sur le chat. Je pense qu'il faut pas non plus tomber, enfin, se laisser avoir par la dictature des émotions, comme on pourrait dire. Enfin, Thibaut Pinot, si on fait le bilan de cette première semaine de Tour de France, il est très fort physiquement, il est au niveau des meilleurs, c'est-à-dire Geraint Thomas et Egan Bernal, et la montagne n'a pas encore commencé. Là, le Team Ineos a été très très fort, a fait un super coup, a très bien manœuvré. Mais en montagne, c'est les jambes qui vont parler en fait. Et il y a de nombreuses occasions. Je rappelle qu'il y aura beaucoup de cols au-dessus de 2000 mètres. On peut facilement reprendre 1 ou 2 minutes. Donc si Thibaut Pinot est très fort, il sera sur le podium du Tour de France et on oubliera très vite c'est 1 minute 40. Par contre, s'il n'est pas au niveau, bah, de toute façon, c'est 1 minute 40 n'auront absolument rien changé puisque. Il n'aura pas été capable en montagne de suivre les meilleurs. Donc, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de recul, même si c'est un peu compliqué aujourd'hui. Le tour n'est pas perdu. Il reste encore à une bonne dizaine de jours de course. Il y a
bah,
eu aucune...
La montagne n'est pas arrivée.
La montagne n'est pas arrivée. Donc, du coup, attendons, ne tombons pas trop dans le piège des émotions pour l'instant, même si je sais que c'est compliqué. Hein, je ne veux pas le minimiser, parce qu'on est encore une fois nombreux à croire en Thibaut Pinot, mais si on prend un peu de recul, comme je le disais, on peut s'apercevoir très vite que rien n'est perdu, qu'il n'est pas si loin au général et qu'il y a encore des chances de le voir même remporter le Tour de France. Hein. On ne sait pas ce qui peut passer. Demain, ça peut être Thomas qui crève à 5 km de l'arrivée, enfin pas demain, mais après-demain, qui crève à 5 bornes et du coup qui prend 30 secondes.
Ça fait 7 ans qu'on attend ça.
Attendons avant de.
Et là, en plus, il y a une hydre à deux têtes, quoi. Enfin bon, désolé, ça fait un peu. Enfin, la Sky, c'est pas un monstre. Le truc, c'est que là, il faudrait que
si,
et
c'est
Thomas et Bernal, il arrive quelque chose. C'est.
Enfin, Bernal a quand même montré plus de limites que Thomas. Thomas, on verra après. Il a eu deux chutes, dont une dernière qui était à vive allure. Donc, c'est aller sur le plat. J'attends de voir en montagne. Alors, Kouef qui dit parle du mental de Thibaut. Ça, c'est vrai que ça peut être un risque. Après Pinot, on l'a également vu, après avoir pris une claque, essayer d'en remettre deux. Donc, ce sera tout ou rien. Et enfin, il dit, Thibaut Pinot a surtout déjà beaucoup donné. Non, mais faut pas déconner non plus. À la planche des belles filles, ils ont tous couru pareil. Et pour l'étape de Saint-Étienne, bon, déjà, c'était sur 15 bornes. Puis surtout, il attaque à 300 mètres du sommet avec Alaphilippe. Et ensuite, c'est du faux plat descendant avec une remontée. Si c'est ça, beaucoup donné, mais en effet, Thibaut Pinot, c'était même pas la peine d'espérer quoi que ce soit avant le début du Tour de France. Alors, c'est vrai aujourd'hui, mais aujourd'hui, tout le monde s'est mis à bloc. Peut-être un peu moins les autres qui étaient dans les roues. Mais bon, il y a la journée de repos. Faut pas non plus. Enfin, c'est un leader du général ou c'est pas un leader du général au bout d'un moment. Thomas aussi, il a beaucoup donné à Saint-Etienne pour entrer sur le peloton après sa chute. Alors. Doucement quand même avec cela, Charles, oui.
Ouais, 15 bornes, c'est pas ça qui va changer la phase du tour, enfin en tout cas sur la forme physique. Mais Moi, je vois toujours le verre un peu à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, donc je vais être assez positif. Enfin, Thibaut Pinot, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué à l'arrivée. C'est les larmes, forcément. Enfin, on voyait qu'il était vraiment
Ah, il
atteint,
s'essuie les lieux, ouais, les yeux.
mais on en a parlé, enfin, tous les deux, Benjamin, après. Et c'est quelque chose, enfin, ce que je retiens de positif, moi, là-dedans, c'est que Thibaut Pinot, il veut gagner le Tour de France. Enfin, tu me l'as dit, Benjamin, à un moment, s'il vise le podium, il n'est pas atteint comme ça, parce que de toute façon, il y a Bernal et Thomas devant, et après, il est dans le jeu. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas le moral et qu'il n'a pas d'ambition. Enfin, pour moi, c'est faux, parce que s'il n'avait pas cette ambition, il ne serait pas autant atteint d'entre guillemets avoir perdu le Tour de France, si tant est qu'il ait perdu le Tour de France. Donc là, moi, je vois quelque chose de vraiment très positif, en fait. On voit qu'il a de l'ambition, on voit qu'il est prêt, on sent qu'il est sûr de sa force. Et encore une fois, le tour va être très long. Je dis pas qu'il va le gagner, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, mais on ne peut pas conclure qu'il l'a perdu là aujourd'hui. Enfin, attendons la montagne et on verra ce qui se passe, quoi.
Ouais. Greg, quelque chose à ajouter sur cela?
Moi, enfin, je sais pas, je reste quand même. Enfin, c'est le vélo en même temps. Enfin, comme tu disais, c'est vrai que si on n'était pas peut-être enfin, plutôt pro-français, supporter de Thibaut Pinot, on dirait que c'est une belle part. Voilà, que c'est une très belle étape à voir. On sait, enfin, suffisamment plein d'étapes ennuyeuses, que ce soit hier ou d'autres jours sur ce tour-là ou même sur d'autres tours de France, que là, pour une fois qu'il y a des bordures, ben, on a pu apprécier le spectacle, mais quand même, je reste plutôt dans la catégorie pessimiste, car il y a de l'écart, il y a d'autres concurrents qui sont devant. Hein, c'est-à-dire, il y a les Ineos, ils sont deux devant, mais après, il y en a d'autres qui ont quand même un peu d'avance et qui vont, eux, se battre sur le podium et qui vont être des alliés de circonstance de la Sky.
Théo, qu'est-ce que tu dirais si tu étais le directeur sportif de Thibaut Pinot ce soir ou demain? Tu lui dirais quoi?
Bah, je sais pas, bon, je pense que je lui rappellerai, mais je pense qu'il va y penser tout seul que ben, l'an dernier il a perdu le podium du Giro à cause d'une maladie qu'il laissait à l'hôpital, enfin même ça aurait même été plus grave, et que malgré tout il finit la saison avec une victoire au Lombardie, deux victoires d'étape sur la Volta et un top 10. Enfin voilà, j'ai vu sur le chat quelqu'un dire que Pinot n'avait pas de morale, je pense que c'est faux, enfin, par
Le
contre,
moral, pas le
dire que
mental,
c'est.
attention, hein. Pas
Ah
confondre
non, non,
mental
je crois
et
que.
moral.
Bon, ben même, je pense qu'il peut. Effectivement, le fait d'avoir 24 heures là, à cogiter, c'est peut-être pas très bien pour lui. Mais je pense qu'il peut se ressaisir et il a vu qu'il était fort. Et très. Enfin, objectivement, peut-être que pour le Tour de France, c'est très. Enfin, gagner le Tour de France, c'est très compliqué. Monter sur le podium, ça reste encore tout à fait jouable. Et surtout, enfin, au départ du tour, si on dit à Thibaut Pinot qu'il peut monter sur le podium, je pense qu'il signe dès demain. Donc voilà, il faut juste se remettre la tête à l'endroit pour lui et pour ses suiveurs. Et je pense qu'un peu ironiquement, ce sera plus simple de se remettre la tête à l'endroit pour lui que pour ses fans qui parfois sont un peu trop à fond et je m'inclus dedans.
J'ai vraiment du mal à comprendre les gens qui disent que Thibaut Pinot n'a pas de mental. Je pouvais le comprendre en 2013 ou des trucs comme ça, mais plus
Non,
maintenant.
mais de toute
Charles.
façon, enfin, n'a pas de mental, c'est une blague. Quand on n'a pas de mental, on n'est pas sportif de haut niveau. Enfin, nous, on aurait abandonné depuis les 15 ans. Enfin, c'est un moment, il faut juste être sérieux. Je voulais juste rebondir sur un message de Mélissa. Je vois, enfin, je trouve qu'il est plutôt bon. Pinot est bien entouré. Oui, Philippe Mauduit, elle met entre parenthèses. Philippe Mauduit, il a une expérience énorme dans le vélo et je pense qu'il va apporter une certaine sérénité, qu'il apporte déjà une certaine sérénité à Thibaut Pinot et que demain, il saura apaiser les choses. Essayer de
Tu lui dirais
dédramatiser
quoi,
la
toi?
situation.
Tu lui dirais quoi à Pino si t'étais le directeur sportif?
Ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est juste un contretemps, que le tour n'est pas fini, que la montagne n'est pas arrivée, qu'il faut pas se prendre la tête et que maintenant on verra bien ce qui se passe, quoi. Enfin, il n'y a pas.
Et toi, Greg?
Bah, je sais pas, s'il y a pas, il y a plein de mecs malades dans le peloton, ils peuvent pas aller faire la bise au Ineos, ça, que. Non. Ben, je sais pas, j'essaierai de lui dire que ben, maintenant faudra être offensif, quoi. Hein. Faudra, quitte à perdre, autant maintenant perdre en étant offensif en faisant une étape de légende, quoi. Hein.
Moi, je crois que bon, déjà aujourd'hui et peut-être demain, j'essaierai de dédramatiser. C'est que du vélo, t'es en forme, donc des pensées positives. Parce que vraiment, ce qu'il faut, c'est pas broyer du nord. Et à partir de. Alors, je sais pas si c'est au matin de l'étape de Toulouse ou le soir, je commencerai à dire bon, mais on a pris une claque, maintenant on va essayer d'en mettre deux.
Ah bah ouais, parce que
Pour
clairement,
montrer.
vaut mieux perdre une minute
On va y
40
aller avec
que.
les armes à la main et si jamais ça sourit, eh bien, ça sera encore plus beau que si on n'avait pas perdu du temps à ce moment-là pour vraiment
Voilà,
le remettre dans un état d'esprit revanchard et conquérant.
et puis si on
voilà, il y a
pose les
donc peut-être dans
choses,
6 ans, il faut attaquer, quoi.
Clairement, enfin, vaut mieux perdre 1 minute 40 sur une bordure que prendre une chute. Hein. Enfin, là, la forme physique, elle a pas changé, donc rien n'est perdu. Par contre, je vois Padre qui a l'air un peu fâché contre Barguil. Faut souligner que s'il va sur Twitter, il verra qu'en fait, Barguil n'a pas du tout fait exprès de faire tomber Landa. Il a
Non.
expliqué, il a touché la roue d'Alaphilippe, ça l'a déséquilibré, et
Bah en
malheureusement,
fait,
il a fait tomber
s'il n'y avait pas Landa,
Michael Landa.
c'est Barguil qui tombe, en fait.
Oui, donc il n'y a aucune mauvaise
Malheureusement,
volonté
je crois
là-dedans,
que c'est
donc
juste un peu drôle parce que Barguil avait déjà envoyé Thomas contre un poteau électrique en ratant un virage. Je crois que c'était en 2015.
Ouais,
Ou
mais
en 2016, en 2015, je pense.
Barguil se faisait pousser par Van Garderen
Ah
sur
oui, c'est ça, oui.
Donc voilà, bon après c'est vraiment pas de chance quoi. Hein.
Voilà, mais surtout Landa quand même qui a pas de chance. Hein,
Ouais,
parce que...
Landa c'est.
Mais il se
Mais en
prend un
fait,
sacré,
le
il se
pire
prend un sacré carton, hein.
c'est deux coureurs qui n'ont pas de chance, qui tombent souvent. Et là, Barguil a été sauvé par plus malchanceux que lui, parce que sinon, il s'est propulsé sur la gauche et il a la chance d'avoir le malheureux Landa qui remontait à ce moment-là et qui tombe quoi. Maintenant, pour le spectacle du Tour de France. S'il y a bien un coup, alors j'espère surtout que Landa n'est pas blessé, mais s'il y avait bien un coureur qu'on sait qu'il attaquerait s'il a du retard, c'est Landa. Peut-être même dès jeudi. On l'a vu d'ailleurs à la planche des belles filles, c'est lui qui attaque le premier, justement avec Barguil. Maintenant, il y a des coureurs qui commencent à avoir du retard, on va peut-être les voir à l'attaque. Hein. Bennett, si vraiment il est en forme, bon, j'ai pas compris pourquoi il est allé chercher les bidons, mais bon, bref. Et à lui d'attaquer aussi, il y a peu d'occasions, peut-être ça fera comme Bardet hier. Mais il faut
Mais
tenter, s'il tente.
Landa, c'est un mal pour un bien, autant pour lui que pour la Movistar, je pense, parce que enfin, on savait qu'il y avait un espèce de truc à trois têtes. Valverde, on a vu que physiquement, c'était pas la fête. Landa, il avait le Giro un peu dans les pattes, mais il aurait pu quand même prétendre au rôle de leader. Là, maintenant, les choses vont être claires ça va être tout pour Nairo Quintana, en fait. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Et que Landa, bah, tu l'as dit, Benjamin, va pouvoir un peu peut-être changer d'objectif et se reconvertir en un chasseur d'étape et aller en claquer
Et
une belle.
dynamiteur.
Dynamiteur et aller en claquer une belle dans les Alpes et quand même faire un top 10 parce que de toute façon, encore une fois, ça change pas tout. Enfin, les écarts seront tellement élevés entre 8 et 15 à la fin que.
Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour. Il y a un message tout à l'heure sur le chat qui disait, avec les écarts qu'il y a maintenant, qui sont aussi énormes, je vois Alaphilippe dans le top 10. Et je rappelle que les 26 premiers sont en moins de 6 minutes. C'est rien comme écart. On sait que les Pyrénées, il y a trois étapes. Alors, bon, c'est pas forcément les plus dures, mais il y a du pourcentage. Les Alpes, c'est plusieurs enchaînements au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Attention, je pense qu'il va y avoir de très gros écarts. Les cols, les enchaînements de cols à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est pas 2000 mètres, hein. Ça monte jusqu'à 2400, 2600 mètres. Ça peut vraiment faire de très très gros dégâts. C'est pas fini. Et Charles, ton pronostic d'avant-tour, ben Quintana, il est toujours là. Il était super bien à la bordure d'ailleurs, lui, le grimpeur.
Ouais, il est bien. Il a montré à la planche des belles filles sur une montée qui lui convenait pas forcément, qu'il savait ré répondre présent. Il était pas forcé. Enfin, finalement, il n'était pas si loin que ça des Thomas Pinot et Alaphilippe. Donc, moi, je crois encore plus en lui, à vrai dire, qu'il y a une semaine.
Et Richie Porte, je reste avec toi, qui, bon, on sait qu'il est nul en bordure. Mais il finit avec Pinot, c'est pas dégueulasse non plus.
Alors moi j'aime bien Richie Porte, mais je dois quand même avouer quoi, il y a un gros déficit de puissance quand on est sur le plat. On l'avait vu sur un Paris-Nice, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, et puis à d'autres occasions aussi. Et là on voit quand même que malgré toute la bonne volonté du monde, Richie Porte c'est pas forcément un allié très fiable lorsqu'il s'agit de rouler comme ça sur le plat dans un petit groupe. Et malheureusement il s'est fait piéger. Et bah Porte quand il est piégé, on sait que c'est foutu, qu'il lui il rentrera pas quoi. Donc c'est dommage, mais encore une fois, ça arrive souvent pour Richie Porte.
Théo, on a mal pour Pinot, mais là où il y a quelques années de cela, on n'avait absolument aucun Français dans le groupe de tête, là on en a quelques-uns. Donc Julien Alaphilippe, toujours maillot jaune, mais Michael Scherel, mais surtout Warren Barguil et Romain Bardet qui remontent au classement général et qui montrent quand même qu'ils ont une certaine canne parce que c'est vraiment des grimpeurs qui ont réussi à s'accrocher sur le plat dans le vent.
Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour eux? Enfin, c'est le problème de Barguil et de Bardet. Enfin, Bardet en plus, il a son. Même Barguil, je pense que c'est quelqu'un qui m'a un peu marqué dans le peloton. C'est qu'ils sont toujours, entre deux eaux en fait.
Mais c'est bien pour le spectacle, parce que s'ils attaquent, ça veut dire que ça a forcé certaines équipes à bouger.
Bah, oui, mais est-ce que c'est bien pour leur tour à eux? Je suis pas sûr. Hein. Warren Barguil, il est que à 3 minutes, enfin il est à moins de 2 minutes 30 des Ineos, par exemple. Enfin, on aurait pu penser qu'un Barguil un peu plus loin, l'étape de jeudi, la première étape des Pyrénées, elle aurait pu tout à fait lui convenir. Même Bardet, s'il veut entamer une opération baroudeur, ça va être compliqué. Alors c'est bien, ça montre qu'ils sont costauds. Enfin, ils avaient aussi des équipiers. Enfin, je pense qu'on peut quand même souligner la performance de Kevin le Danois, qui a quand même été pas mal raillé. On dit qu'il est là sur le tour grâce à son père ou son oncle, je sais plus.
Père.
Et qui il se fait un peu décrocher à la fin, mais il était dans le groupe de tête. Mais en fait, je vois pas trop ce que ça change pour eux. Effectivement, ils gagnent un peu des places au général, mais la montagne n'est pas encore là et ils sont trop près pour pouvoir bénéficier de largesse. Donc, ils sont pas non plus dans une situation idéale, à mon avis.
Moi, je pense que... Oui, non,
Ah,
mais je
vas-y,
pourrais
Greg.
rebondir. Moi, je pense quand même que ça rassure un peu Bardet parce que il y a eu beaucoup de critiques à son sujet, peut-être un peu sévères ces derniers jours.
Bah,
Donc je pense
Bardet,
que...
de toute façon, il en prend toujours plein la gueule, hein, qu'on soit d'accord. C'est quand même la cible, c'est un peu le Romain Grosjean. Hein. Pourtant, il n'y a pas les mêmes résultats du cyclisme. Vas-y,
Ah, je
continue,
pense que
Greg.
moralement, ça quand même, ça lui fait du bien. Mais s'il avait été encore lui aussi pris dans la bordure, je pense que moralement, ça aurait été très compliqué. Contre la montre par équipe, perdre du temps, plonger Belfi, perdre du temps, et là, dans la bordure, perdre du temps, je pense que... Moral, ça aurait été vraiment compliqué pour lui de se remonter le moral après ça. Donc tant
Et
mieux pour lui, il est là.
un Français, Greg, qui par contre va pouvoir aller un peu plus dans les échappées parce que maintenant il commence à être un peu loin, c'est Guillaume Martin, qui
Par contre,
est
là,
à
peut-être
6
d'accord,
minutes
peut-être
et qui
pour
va
lui, après tout, c'est plutôt
commencer.
une bonne chose, hein, parce que c'est le pur style grimpeur, hein, il va partir en danseuse là, donc moi j'avais dit au Tourmalet, c'est pour lui, donc. Je croise les doigts pour mon pronostic, qu'on puisse le voir à la fête dans les prochains jours en montagne. C'est ce qu'on attend de lui aussi. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas finalement assez peu vu, il a été assez discret. Et là, après tout, c'est assez logique, hein, surtout quand ça demande beaucoup de puissance, c'est pas tout son style, les bordures. Donc maintenant, ça va être dans les prochains jours, ça va être à lui de jouer, dès les Pyrénées.
Messieurs, quelque chose à ajouter par rapport aux favoris à l'étape du jour, au bouleversement du classement général?
Bah, on n'a juste pas trop parlé de Fuglsang, parce qu'encore, sauf si j'ai mal
Non,
écouté.
c'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est vrai que enfin, les équipes explosives, les équipes qui vont tout mettre, enfin, Astana, de manière générale, même quand ils ont leader pour le classement général, ils envoient des gains un peu partout. Là, avec un Fuglsang à 3 minutes 20, peut-être que voilà, ils vont avoir une stratégie qui risque de un peu faire bouger les choses. Donc peut-être que c'est une bonne nouvelle pour le spectacle sur le tour. Voilà.
Justement pour Astana, puisqu'on en a parlé, à un moment ils ont roulé très tôt hein, dans l'étape.
Mais ils
D'ailleurs,
ont mis
beaucoup.
Kornilsen, ouais.
Voilà, mais peut-être que c'est les jambes de Kort Nielsen hein, qui ont manqué pour revenir, parce que c'est, je crois, c'est grâce à Lutsenko que le deuxième groupe était revenu très près. Ils reviennent à quoi, une douzaine de secondes. C'est
C'est ça, ouais.
Lutsenko qui fait un énorme relais. Peut-être que s'il y avait eu Kort Nielsen pour rattraper, enfin pour faire le dernier relais, peut-être que ça aurait permis au groupe de revenir.
Ouais. Et enfin, bon, Wran, c'est un peu le même principe. On va voir s'il est obligé d'attaquer, puisqu'on sait que c'est plus un suiveur qu'un attaquant. Et enfin, Théo, un dernier mot sur cette étape, c'est que Julian Alaphilippe est toujours bien maillot jaune et semble toujours aussi fort. Et je pense pas qu'il perdra le maillot jaune lors du contre-la-montre.
Lors du contre-la-montre, non, je suis quasiment sûr qu'il va le garder. Ça a l'air d'avoir pas mal de relances, pas mal de virages. Donc, il fait que 27 km, je crois,
Ouais, comme au
de
Dauphiné.
tête. Voilà, je pense même Alaphilippe peut faire dans les top 10 du chrono. Alaphilippe
Moi
peut
même
faire dans le
top
top 10
5.
du chrono. Et il perdra pas 1 minute 12 sur Geraint Thomas. Donc, c'est quasiment sûr qu'il sera avec le maillot jaune en entrant dans les Pyrénées.
Ou alors Geraint
Enfin,
Thomas va
avant le
écraser le
week-end.
Tour de France.
C'est toujours possible. Avec
Ouais,
la
ben,
Sky Neos, on ne sait jamais.
on l'espère pas. Un rapide mot sur l'étape de mercredi, puisque demain c'est repos, Albi Toulouse, belle route. Moi j'avais prévu de vous en parler de mes routes d'entraînement, mais là j'ai pas l'envie hein, avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc ben, une étape qui sera sans doute, qui arrivera sans doute au sprint, ça monte, ça descend, mais un peu moins que le début d'étape d'hier, mais après c'est des routes pas souvent plate. On verra par rapport au vent. S'il y a vent d'autant, ça peut aller très vite dans le final, ça peut refaire des bordures d'ailleurs. On verra bien.
Et on passe
Voilà.
Par une ville, Lavore, je crois.
Lavore, c'est la ville d'origine de Benjamin Thomas, le champion de France de contre-la-montre. Peut-être qu'il aurait été sur le Tour de France. Peut-être non, j'ai pas envie de faire de SI, c'est trop dur, ça fait trop mal. Donc voilà, ouais, des courses, des belles routes. Je serai d'ailleurs à l'entrée de Lavore. Moi, je serai sur le parcours. Sinon, on va passer au pronostic. Pronostic où il y a un bouleversement puisque Théo n'est plus seul en tête. Alexandre Payou et Alexandre Rollet l'ont rattrapé avec 4 points. Donc, c'est très important aujourd'hui parce qu'on va peut-être avoir un changement de leader. 3 pronostics. Alors, la place d'Anthony Pérez, c'est le même principe que Lilian Calmejean, donc à 8 places près. Et ce sera la dernière fois que je ferai la place d'un coureur dans l'étape parce que je me fais presque insulter en off par les autres commissaires. Donc, voilà, ensuite le vainqueur de l'étape et également le nombre de coureurs présents dans l'échappée. Charles, tu commences.
Ouais, je vais dire 135e pour Anthony Pérez, dans l'échappée 7 coureurs. Et c'est le vainqueur le dernier, c'est ça?
Oui.
Bah, je vais redire Groenewegen.
D'accord. Greg.
Alors, je vais dire, allez. 5 coureurs dans l'échappée, le club des 5.
Ouais.
C'est Caleb Ewan qui va gagner.
Oui.
Et Anthony Pérez va terminer 151e.
Théo.
Moi aussi, je vois 5 coureurs dans l'échappée. Pour Anthony Pérez, je crois que c'est Serroux, donc peut-être qu'il sera aussi dans l'échappée, donc peut-être qu'il sera fatigué dans le final, donc je dirais 157e, surtout qu'il est malade. Encore, je crois.
Ça a l'air d'aller un peu mieux quand même.
Après, il y a une belle montée dans Toulouse, donc Groenewegen, ça me paraît.
Non, c'est pas une belle montée. C'est pas une.
Mais même, c'est une montée, tu vois. Quand Groenewegen, il a l'air de pas aimer ça. Donc, je vois bien aussi qu'Alabé One remportait sa première victoire. Je vais changer. Je vais dire Matthews, qui va réussir pour une fois à lancer un sprint correctement.
L'histoire dira peut-être que c'est à ce moment-là que t'as perdu le leadership. Alors pour ma part, 130e Anthony Pérez, 4 dans l'échappée, et victoire de Viviani. Je vais rester sur Viviani chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre pronostic, je les prends en compte. Et je continue à mettre l'actualisation du classement général en dessous de la vidéo. Pour ceux qui écoutent en replay, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous avez jusqu'au départ de l'étape suivante, donc là vous avez plus de 24 heures. Il n'y a aucune raison de ne pas jouer, c'est rigolo, ça n'engage à rien. En tous les cas, messieurs, dames, on se retrouve donc mercredi soir. Ceux qui vont sur les routes du Tour, surtout encouragez les coureurs, encouragez Pinot, il en a bien besoin, le pauvre. Redonnez-lui le moral. Et bonne soirée tout le monde. À mercredi. Ciao, ciao.
Au revoir.
Salut. Ciao.